Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à nos internautes. Ce matin, on est encore dans la joie. C'est un privilège parce qu'on peut tous ensemble chanter, louer Dieu, dire qu'on l'aime, dire combien il est bon, fort et puissant. Alors, ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever, frapper dans vos mains ou même danser si vous voulez. On est dans la présence du Seigneur ce matin.
Alléluia, nous te louons, pour qui tu es. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils. Sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois.
Oui, je crois que tu as donné ton Fils unique à la croix. Oui, je crois que tu es mort et ressuscité. Oui, je crois que nous allons vivre éternellement en ta présence. À toi soit toute la gloire, Dieu. Tu es vivant, tu es puissant, tu es souverain, Seigneur. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Merci parce que même quand on faute, Seigneur, mon Dieu, tu es là pour nous relever, nous enseigner, nous façonner. Seigneur, et ce matin, nous pouvons que te dire merci. Merci, Père. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Je
toi.
Un sujet de prière dans votre cœur ce matin où il y a besoin d'une action du Saint-Esprit. Juste, on va le reprendre une dernière fois, ce refrain. Ta victoire. On va proclamer la victoire. Peut-être vous avez une situation qui monte à votre âme maintenant. Elle vous concerne, elle concerne quelqu'un de votre entourage. On va confesser la victoire de Jésus, que c'est lui notre refuge. Est-ce que l'Église peut s'unir en priant ce chant qui parle de l'espérance qu'on a en Jésus sur votre situation ?
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout.
Sur la maladie, sur l'épreuve,
victoire,
dans la vie de mes enfants,
chemin,
dans ma vie professionnelle,
salut,
dans mon entourage,
refuge,
ta victoire, c'est mon espoir.
Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Seigneur Jésus, on t'applaudit, on peut applaudir le roi, on peut. C'est le Seigneur. Seigneur, tu vois tous ces sujets de prière qui sont montés dans la louange, dans l'adoration. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. Ton bras n'est pas trop court pour venir sauver, chercher, libérer ce matin. Alors nous te prions en Église que chaque personne dans ce lieu, chaque personne en ligne ce matin, soit touchée par la grâce de Dieu, soit touchée par la douceur et la puissance du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas venir dans ce lieu et repartir comme nous sommes venus. Nous croyons dans un Dieu vivant, un Dieu qui règne, un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur parce que tu vas continuer à parler à nos cœurs ce matin. À toi toute la gloire. Amen. 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 Vous pouvez prendre place un instant. Amen. Eh bien, on est dans un esprit de célébrer Jésus ce matin, c'est bon ça? Il y a un chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Vous savez d'où il vient ce chant? Il vient d'un psaume. Donc applaudir Dieu, c'est profondément biblique de célébrer Jésus. Est-ce qu'on peut juste encourager les ados et les between cadeaux qui vont redémarrer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les encourager bien fort? Tu as 12, 17 ans, let's go, between cadeaux, c'est maintenant. Et mine de rien, il y en a quand même pas mal, là. Bon courage à nos animateurs. Heureusement qu'on a beaucoup prié pour vous hein, ces dernières semaines. Excellent, excellent. Bienvenue à chacune et à chacun dans ce lieu ce matin. Je m'appelle Mathieu Thoman. Je suis un des pasteurs de cette communauté et on est très heureux de vous accueillir dans ce lieu, cette rue des Frères Hébert. On est heureux de vous accueillir aussi, vous qui êtes en ligne ce matin. Septembre, c'est un mois de rentrée. L'Église va au-delà d'une célébration le dimanche matin. Je voudrais juste faire un gros big up à toutes celles et ceux qui traduisent, parce qu'ils ont un énorme travail à faire avec moi en général. Parce que moi, je prends pas le TER, voyez. Moi, je prends le TGV, en fait. Donc, est-ce qu'on peut leur donner de la force et les encourager aussi, parce que... Voilà, on vous aime et désolé pour la rapidité parfois. Quelques annonces, quelques informations pour vous par rapport à notre vie d'église. Comme je le disais, il y a nos célébrations, mais la vie d'église, elle va au-delà de nos célébrations le dimanche matin. Et il y a plusieurs informations qu'on voudrait vous partager, c'est que nous avons à l'EPI une vie en petits groupes. On appelle cela les groupes de vie. Les groupes de vie à l'EPI font partie du poumon, du cœur de l'Église. Vous avez, je vous le dis d'avance, un petit feuillet qui va vous donner toutes les informations sur ces groupes de vie et qui va vous permettre aussi, qui va vous permettre aussi de pouvoir connecter en plus petits groupes avec des chrétiens, des chrétiennes, des frères et des sœurs, des personnes qui découvrent la foi. Vous avez toutes les informations pour pouvoir connecter un petit groupe. Mais je voudrais juste vous rappeler les petits groupes. Tu peux y aller. Les petits groupes de vie, c'est se rencontrer autour de centres d'intérêt. J'ai envie de grandir dans la prière. Je suis un homme et je veux connecter avec d'autres hommes là dans la foi, des frères d'armes. Je suis en famille. Différents groupes, l'idée c'est de découvrir Dieu si on ne le connaît pas, ou de rencontrer Dieu si on le connaît, de dire je vais vivre en petit groupe et on va rencontrer Dieu ensemble. C'est aussi l'idée de grandir spirituellement. Il y a plusieurs groupes de vie, on va vous les dire ce matin, donc tu peux passer à l'autre slide. Il y a des groupes familles qui existent, il y a des groupes de maisons. Une dizaine de groupes de maisons un petit peu partout, où on va grandir dans la prière, dans l'encouragement aussi. Il y a un groupe de 30 ans et plus, un groupe des seniors, les aînés, 60 ans et plus. Il y a un groupe qui s'appelle les repas fraternels. On prend le temps de manger ensemble dans les maisons et d'apprendre à se connaître. Il y a le groupe Créactrice, 100% au féminin. Elles se sont rencontrées hier matin, et c'est une rencontre mensuelle une fois par mois. Il y a les mères en prière, les mamans en prière, un groupe de mamans qui prient pour les enfants de l'Église, pour leurs enfants, pour les petits-enfants de l'Église et pour leurs petits-enfants. Qui croit que la famille a besoin de prière? Amen. Un groupe de vie dédié. Il y a une chaîne de prière où on partage des sujets de prière en lien avec la vie de l'Église. Jésus nous a dit, vous serez appelés une maison de prière. Alors, ben, Seigneur, on t'obéit et en 2023, on essaye de vivre cela à Strasbourg. Il y a aussi le groupe des Arméniens pour favoriser l'accès à l'évangile des personnes qui parlent dans la langue arménienne, pour les connecter à l'Église, que la langue ne soit pas un frein pour vivre l'Église internationale. Et il y a aussi des randonnées pour hommes. Comment connecter avec un groupe de vie? C'est très simple. Ce matin, vous avez vu, il y a un QR code qui était là. Donc maintenant, c'est le moyen de pouvoir avoir toutes les infos. Un QR code, vous le flashez, vous êtes en appareil photo, vous le flashez. Vous allez arriver sur un petit formulaire. Où vous allez pouvoir dire ce à quoi vous aspirez. Et vous allez avoir tous les groupes. Vous laissez vos coordonnées, votre code postal. Et on va pouvoir vous connecter avec le bon groupe. Les groupes de vie, c'est la vie de l'EPI. Spécialement pour vous aussi, on a dans le petit livret le premier feuillet sur les groupes de maison avec tous les endroits géographiques où des chrétiens se rassemblent à chaque semaine. Donc n'hésitez pas, au point accueil, à aller chercher ce livret. Une autre information, un groupe qu'on aime beaucoup, un parcours qui s'appelle C'est Proactif. Nous sommes en activité professionnelle pour la plupart d'entre nous, nous l'avons été, et nous sommes heureux de pouvoir être en partenariat avec C'est Proactif, un organisme qui vient aider les chrétiens au travail à glorifier Dieu. Du coup, c'est un parcours pour cheminer dans la connaissance de ce que la Bible dit sur le travail, mais aussi de pouvoir voir comment on peut vivre ce que la Bible dit sur le travail dans notre travail à nous. C'est un parcours parce que ça va vous emmener sur une année. Tu peux passer à la slide suivante. Ce parcours en trois étapes. Premièrement, le format. C'est des petits groupes de 6 à 8 personnes. Là, on est dans du discipulat de proximité, de vis-à-vis. Il y a un animateur qui a été formé et qui va vous accompagner tout au long de la découverte de ce que la Bible enseigne sur le travail. Ça peut se faire soit en visio, soit en présentiel, mais la première rencontre sera forcément en présentiel, parce que pour nous, le relationnel en présentiel, c'est le démarrage de tout. Voilà pour le format. Ensuite, on a les fréquences. Sur l'année, 12 séances. Ça démarre mi-octobre. Donc inscrivez-vous de manière à ce qu'on puisse vraiment, avec les animateurs, pouvoir avoir des groupes bien homogènes qui correspondent à votre style de vie aussi. Donc, démarrage mi-octobre. Le fin du parcours aura lieu en juin. Et le planning est défini en amont par les membres du groupe. Voilà. Et enfin, désolé pour la petite faute française de l'Académie de français qui sera pas contente avec moi. Pourtant, j'avais changé ça. Et la dernière slide, s'il te plaît. Ouais, merci. Un contenu mensuel, une thématique de la Bible en lien avec le travail et nos réalités professionnelles. On lit ce que la Bible dit, on met en miroir avec ce qu'on vit, on prie pour ça, on s'encourage pour ça et on vit ça dans la semaine ensemble, en échange, en prière et en action. Pareil. Il y a un stand dans le hall qui vous attend avec Thérèse Chartier. Vous pouvez aller la rencontrer. Il y a un petit flyer qui est là pour vous. Vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, ça démarre bientôt. L'épi, c'est aussi la solidarité. Nous avons faim et soif de solidarité. C'est pourquoi il y a une vente des aiguilles solidaires qui aura lieu le dimanche 1er octobre dans le hall. Et tous les bénéfices de cette vente ira aider des projets solidaires. Parce qu'il faut joindre à notre foi les œuvres. Sinon, notre foi, elle est morte. Donc du coup, voilà, vente des aiguilles solidaires, dimanche 1er octobre. On a aussi une belle annonce à vous faire. La deuxième édition des portes ouvertes de l'EPI aura lieu le dimanche 8 octobre. Qui a participé à la première édition des portes ouvertes? Levez la main bien haut et dites, ne manque pas ça, dites-le. Non, vous n'étiez pas convaincus. Ceux qui étaient là à la première édition, qui êtes convaincus que c'était vraiment un temps fort pour découvrir l'Église, dites, ne manque pas ça. Ah, il y a un petit peu plus de conviction, ça va. Qu'est-ce que les portes ouvertes? Les portes ouvertes, c'est découvrir l'Église de l'intérieur. Parce que souvent, on peut se dire, ah ouais, mais l'EPI, c'est des célébrations le dimanche. Un, que nenni. L'EPI, c'est des hommes et des femmes qui vont nous rappeler le sens même de l'Église, s'impliquer dans la vie des gens. Venez rencontrer, venez découvrir, venez rejoindre des hommes et des femmes qui donnent du sens à l'Église. Il y aura une trentaine de stands qui représentent une trentaine de services que nous proposons pour que les gens découvrent Jésus et grandissent en Jésus dans l'Église. Et vous allez avoir l'occasion de pouvoir découvrir l'Église comme jamais on la découvre et de pouvoir se dire « Seigneur, je veux prier pour l'Église ». Je veux rejoindre des hommes et des femmes qui bénissent autour d'eux. Alors, plusieurs services, j'ai pas tant tous les énumérés, on vous en parlera encore, mais c'est un temps fort, ça aura lieu pendant notre célébration, et on finira, comme on sait le faire dans notre culture internationale, par un bel apéro agape koinonia. Amen? Ok. On continue. La rentrée des épitchounes, c'est les 0-3 ans. Une petite vidéo pour vous présenter la vie d'épitchounes, et je reviens tout de suite après. Pour faire vivre un peu cette jeunesse des 0-3 ans, il y a un appel de l'équipe Epichoun pour vous qui avez entre 15 et 199 ans, de pouvoir rejoindre aussi, c'est sous forme de crèche parentale, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, en tant que parent, on vient, on participe à cette vie, les enfants, vous inquiétez pas, qui vont jouer, ça va sauter dans tous les sens, être là, être une figure rassurante pour les enfants, être à l'écoute des enfants s'il y a besoin à un moment donné pour le petit goûter ou autre, on a vraiment besoin de participation à Epichoun, donc c'est dans l'espace qui est juste derrière cette salle-là, et vous allez voir et dire, je peux donner un temps, plus on est nombreux à Epichoun, plus on peut être dans un service beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise avec nos agendas de vie. Donc il y a de 15 ans à 99 ans, il y a de la place pour aimer les enfants en parole et en acte. Et puis comme ça, vous serez des papiers, des mamies de l'Église. Voilà. Et des grands frères et des grandes sœurs de l'Église aussi. Ok. Une dernière annonce pour vous ce matin. Deux dernières annonces, pardon. Il y a un week-end d'ados, là on s'adresse, les ados et les between sont descendus, mais je parle au papa et aux mamans, il y a un week-end d'ados, un week-end qui a pour objectif l'intégration et qu'on puisse vivre quelque chose de l'ordre du relationnel entre ados, et ça aura lieu du 28 au 30 octobre près de Münster. Donc les inscriptions auprès de cadeaux, papa, maman, c'est des temps forts, des week-ends vraiment pour eux, qui vont vraiment participer à ce qu'ils puissent davantage connaître Jésus, connectés, être entourés de bonnes relations. On l'espère en tout cas que Dieu change les cœurs des ados pour que ce soit toujours de bonnes relations, n'est-ce pas? Et voilà, du temps de fun. Il y a toute une équipe qui travaille, on a besoin de ces inscriptions pour vraiment bien préparer les choses. On compte sur vous, s'il vous plaît. C'est un week-end important dans la vie d'une église. Nous aimons les petits groupes, les ados aiment les petits groupes aussi. Et même parfois, quand ils veulent pas trop, ils font « Ah, je veux pas », vous les inscrivez quand même, vous n'entendez rien, vous les inscrivez. Et quand ils vont revenir, ils vont plus vouloir partir. Ils disent « Mais pourquoi t'es venu? Je voulais rester avec mes potes !» Voilà. Dernière annonce, et pas des moindres. Comme je l'ai dit, nous voulons être une église qui est une maison de prière. On vous en a parlé, on va rendre ça beaucoup plus tangible et officiel maintenant. Sommes heureux de vous annoncer que mi-octobre, nous allons mettre en place ici, pendant nos services de célébration, un espace, un temps d'écoute et de prière. Un espace pour vous à la fin de nos célébrations. Le lancement, ce sera le dimanche 15 octobre avec un temps de prière en église pour ce service. Tu peux y aller. Alors juste pour vous donner quelques informations sur qu'est-ce que ce service. Non, normalement, il y a un PowerPoint. Yeah. Yes. Alors, ça sera tous les dimanches à la fin des célébrations dans le secteur du piano à queue. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle le secteur du piano à queue. Et vous êtes bien là, et on vous aime bien, et vous êtes toutes belles et toutes beaux. Franchement, incroyable. Du coup, dans le secteur du piano à queue, il y aura une petite équipe de 3-4 personnes qui vont prendre le temps avec vous de prier. C'est un temps vraiment court, mais qu'on veut intense, qu'on veut profond ensemble. L'idée, c'est de pouvoir vous écouter, de prier pour vous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelque chose vous a touché pendant une célébration, vous a interpellé, vous a secoué pendant le temps de célébration, on veut pas vous laisser partir sans rien. On veut vraiment être des équipiers de prière pour vous. Et cet espace est là pour vous, pour vraiment prendre le temps de prier, de dire, ben voilà, la louange, la célébration, des annonces, un échange, quelque chose m'a interpellé. Ou alors vous avez une échéance qui arrive dans la semaine, un examen médical, une opération ou autre, et vous avez besoin qu'on prie pour vous, cet espace écoute et prière est là pour vous. Et l'idée, c'est qu'il contribue à développer la communion fraternelle entre nous. Maintenant, pour qu'on soit bien clair sur le service, je vais vous présenter qu'est-ce que le service n'est pas. Il n'est pas un endroit de débat théologique. On ne va pas débattre sur la Bible, on va prier et s'attendre à ce que Dieu œuvre dans les vies. J'avais marqué que l'Église allait dire un grand Amen ici. Hein, la Bible est importante, la théologie est importante, mais cet espace-là n'est pas dédié au débat théologique sur « Ah, tel pasteur a dit ça, je suis pas d'accord », ou « Tel frère ou telle sœur », ou « Le monde », ou « L'univers », ou « Le cosmos ». Non, tu as été interpellé par le Saint-Esprit, on est là pour t'écouter et pour prier avec toi. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Un endroit de relation d'aide. C'est pas là qu'on va prodiguer des soins et accompagner de manière concrète, avec plein d'écoutes, de pistes pour pouvoir avancer, etc., des étapes de guérison ou autre. C'est pas un endroit de relation d'aide. Si il y en a besoin, il y a d'autres possibilités. Mais pour ce temps d'écoute et de prière, ce n'est pas un endroit d'entretien, de rendez-vous ou de relation d'aide. Maintenant, je vais vous dire ce que ce service est. Ce service est un service, un lieu d'écoute. On va être actif dans l'écoute, on va écouter ensemble et on va prier ensemble pour votre besoin. Et s'il y a besoin d'aller plus loin, la bonne nouvelle, c'est que l'Église a plusieurs espaces pour aller plus loin. Mais ça sera dans un autre temps. Et ben voilà. Quelle rentrée, les amis. On est tellement heureux que vous soyez là ce matin. On est l'Église. Et on est heureux aussi de pouvoir écouter ce matin une parole d'édification, d'encouragement avec Jérôme. Je vais prier pour lui. Et après, on va être édifié, challengé dans notre foi. Bienvenue, Jérôme.
Merci.
Voilà, qui a démarré au 1er septembre en tant que permanent ici. On est très heureux de l'avoir et de pouvoir servir Dieu. On aura l'occasion de présenter un peu plusieurs choses. On vous encourage à pas partir trop tôt à la fin de la célébration. En fait, on a un temps de focus pour expliquer un petit peu le conseil d'église, comment nous fonctionnons de manière efficace pour accompagner l'église. Ça va être un temps vraiment fort. Vous allez avoir plusieurs occasions de comprendre qu'est-ce qu'on vit à l'église. Mais pour l'instant, voilà, Jérôme, on va prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci de bénir Jérôme. Merci de l'encourager, de le fortifier. Alors qu'il a préparé ce message, il a été déjà challengé par ta parole, il a été challengé par le Saint-Esprit. Et là maintenant, Seigneur, encourager des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Merci Saint-Esprit qu'au travers de ta parole, tu puisses vraiment édifier notre foi, nous interpeller, encourager. Merci vraiment de renouveler chacune et chacun dans ce lieu. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus Père, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci Mathieu. Vous allez bien? Oui. Ok, on va la refaire. Vous allez bien?
Oui.
Ouais, Jackie va bien, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des ados, les ados sont partis, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui ont repris les études et qui sont heureux? J'en attendais pas moins, ok? Est-ce qu'il y a des parents qui sont contents d'avoir remis les enfants à l'école? Moi je suis content. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des aînés, des papis de mamie qui sont contents que l'école est juste un lointain souvenir? Ah, quand même quelques-uns. Ok, ok. Mais juste pour vous, je vais vous faire plaisir, on va refaire un petit cours sur... je vais juste donner quelques chiffres sur la Terre, sur la France, etc. Juste ramener un petit cours qui va durer quelques minutes. C'est bon pour vous? D'après la science, on estime que 100 milliards de personnes ont vécu sur Terre depuis la création. 100 milliards, ce qui veut dire qu'il y a eu 93 milliards de morts. Retenez ça. C'est une bonne déduction, non? Je suis bon en maths, on a à peu près 7 milliards sur la planète. Notre monde a connu 5 grandes périodes. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, pardon, et l'époque contemporaine dans laquelle on est en ce moment. Du 5e siècle au 19e siècle, 64 rois et 3 empereurs se sont succédé le pouvoir en France. C'est énorme. Et un peu plus proche de chez nous, depuis 1848, 25 personnes ont exercé la fonction de président de la République. Et là, j'imagine dans votre tête, vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On est à l'église, on n'est pas à l'école. Ok. C'était juste pour vous dire, la vie est une succession de transitions. 93 milliards de morts, ce qui veut dire qu'il y a eu 100 milliards de naissances jusqu'à maintenant. Il y a eu différents présidents qui sont succédés, des rois, des empereurs. Et là, j'ai juste focus sur la France, mais dans le monde entier. On est habitué aux transitions. La vie est une succession de transitions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à une des plus grandes transitions qu'il y a eu dans la Bible, entre deux personnes, entre Moïse et Josué. Moïse et Josué. Mais peut-être que tu n'as aucune notion, c'est qui Moïse, c'est qui Josué, tout ça. Juste pour te dire, Moïse, c'est genre Antoine Dupont pour l'équipe de France du rugby en ce moment. Il était indispensable pour le peuple de Dieu, ok? Antoine Dupont, pour ceux qui connaissent pas, c'est un demi-mêlé, c'est celui qui donne le rythme, c'est celui qui fait les passes, c'est celui qui crée le jeu, et c'est celui qui va faire en sorte qu'on va gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des supporters de rugby dans la salle? C'est bon ça. Yes! Petite parenthèse, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait si on priait pour que notre équipe gagne et que d'autres personnes priaient pour que l'équipe d'en face gagne. Je me suis toujours demandé comment Dieu faisait pour équilibrer les choses. En tout cas, je ne prie plus pour ça. Je ne prie plus pour ça. C'est bon. On va regarder à ça. Moïse, mais c'est qui concrètement Moïse? Moïse, c'est celui qui a écrit en grande partie les 5 premiers livres de la Bible. C'est grâce à lui qu'on sait que c'est Dieu qui a créé l'univers. C'est celui qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est celui aussi que Dieu a utilisé pour séparer la mer Rouge. Il a fait des grandes choses. C'est celui qui a dirigé le peuple dans le désert. C'est celui qui a amené les 10 commandements. Et les 10 commandements, on les connaît. D'ailleurs, notre société a longtemps été influencée par ces 10 commandements. Donc Moïse, c'est quelqu'un. Moïse, c'est quelqu'un à l'époque qui est irremplaçable. Sauf que Moïse, c'est un humain parmi les 100 milliards qui ont vécu aussi sur Terre. Et comme la vie est une succession de transitions, Moïse est mortel. Donc Moïse meurt et Josué doit prendre sa place. En tout cas, Dieu l'appelle à prendre sa place. Puis on va lire ensemble, on va focus ensemble sur Josué chapitre 1, où Dieu va appeler Josué à prendre la suite. Josué 1, versets 1 et 2. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » On va se mettre à la place de Josué un instant. Josué a été l'assistant de Moïse durant presque toute sa vie. Il l'accompagnait partout. Il était là au pied de la montagne quand Moïse est revenu avec les tables de la loi. Il était là pour diriger le peuple à combattre pendant que Moïse intercédait pour eux. Moïse a pris Josué sous son aile et l'a mentoré. Un peu comme l'apôtre Paul l'a fait avec Timothée, comme on l'a entendu la semaine dernière avec Matthieu. Josué était l'assistant, c'était le second. C'était le second. Mais sauf que là, son leader vient de partir. Et c'est à lui de prendre la place. Et j'aimerais juste dire une chose. Le ministère de Josué ne commence pas maintenant. Le ministère de Josué a commencé quand il était dans l'ombre. Quand il a commencé peut-être à aider les gens à traverser, quand il traversait la mer Rouge, accompagné à prendre des ânes, des enfants, etc. Le ministère de Josué ne commence pas maintenant, il transitionne. Son ministère prend toute une autre ampleur. Et j'aimerais dire, c'est pas parce que ton ministère, ton service pour Dieu n'est pas vu que c'est pas un ministère. Ce n'est pas parce que je suis sur l'estrade que mon ministère commence maintenant. Il a commencé dès que je me suis consacré à Dieu et j'ai commencé à servir, à accueillir les gens par exemple, à ranger les chaises, etc. C'est juste un ministère qui prend une autre ampleur, une dimension différente. Et c'est ce que Josué est en train de vivre. Une dimension différente, mais effrayante. Ça fait peur pour Josué. Prendre la place de Moïse, le plus grand leader du peuple de Dieu à l'époque, prendre sa place alors que Josué devait certainement se considérer comme étant « Non, je suis pas suffisant. Je suis pas suffisant. » Une grosse transition. Et peut-être que c'est des transitions que toi aussi tu es en train de vivre qui te font peur. Transition familiale, peut-être que tu viens d'avoir des enfants. Et là tu dis « Il est où le manuel pour savoir comment devenir papa ?» Je te rassure, il n'y en a pas. Okay, tu vas apprendre comme tout le monde et ça va être dur. Mais il y aura de la joie aussi. Peut-être que c'est une transition au niveau du travail. Tu as eu une promotion ou peut-être que, je sais pas, tu t'es fait virer ou peu importe, une transition professionnelle qui t'amène à devoir dépendre de Dieu parce que ça fait vraiment peur. Transition de vie, transition au niveau des études, transition peu importe, ou peut-être même que tu t'es séparé récemment. Différentes transitions qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous faire peur et qui peuvent juste nous amener dans un endroit où on ne serait jamais allé par nous-mêmes, exactement comme Josué. Je ne sais pas, certainement qu'il devait se douter qu'il allait prendre la place de Moïse. Mais personne ne peut prédire que Moïse allait mourir à ce moment-là. Josué est propulsé d'un coup par Dieu à prendre une place qui l'effraie énormément. Et Dieu le sait, comme Dieu sait quelle transition de vie te fait peur en ce moment. Et j'aimerais juste qu'on regarde au chapitre 1 où Dieu va encourager par trois manières pour encourager Josué dans cette transition de leadership pour lui. La première, il va l'encourager en lui rappelant sa présence. Josué chapitre 1, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je vais peut-être te décevoir, mais si tu es venu ici avec l'espérance d'entendre quelque chose de nouveau, des révolutionnaires, un nouveau gadget qui va t'aider ou une nouvelle clé spirituelle qui va t'aider à être propulsé dans la foi, etc., tu vas être déçu. Tu vas vraiment être déçu. Parce que là, je vais juste te rappeler des basiques qu'on connaît tous ici. Des basiques qui sont primordiales, mais qu'on laisse souvent de côté. Pourquoi ? Parce qu'on les a entendues toute notre vie, parce que la Bible est remplie de ces basiques. Et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs. La présence de Dieu, si tu peux te faire grandir, c'est pas une nouvelle clé spirituelle révolutionnaire, mais c'est de réaliser continuellement les choses basiques que Dieu nous répète dans sa parole. Si tu oublies ça, si tu oublies l'importance d'entendre Dieu te dire « Je serai avec toi », alors tu peux vraiment passer à côté de sa paix dans les moments difficiles. Tu peux vraiment passer à côté d'un moment où tu es rassuré, alors que tu vis une souffrance et tu dis « Mais comment ça se fait que je me sens si bien alors qu'il y a toutes ces circonstances changeantes autour de moi ?» Sa paix, mais ça passe par écouter Dieu te dire « Je serai avec toi ». On a tous déjà vécu des moments difficiles, ok ? Qui n'a jamais vécu de souffrance ? Je lève pas la main parce que j'en ai vécu. On a tous vécu des moments difficiles, des moments où peut-être un deuil, tu perds quelqu'un, des moments où quelqu'un te trahit, des moments, bref, qui font souffrir. Et c'est normal. La vie, comme je l'ai prêché il y a un mois, la vie, c'est la souffrance en continu. Mais il y a un Dieu qui prend soin de nous, qui vient nous guérir, nous délivrer, nous libérer et qui va nous faire grandir à travers ça. On a tous déjà vécu un moment de souffrance ou difficile et on a tous déjà ressenti la paix de Dieu dans cette souffrance. Qui a déjà expérimenté ça ? Tu vis une circonstance, tu dis mais je vais jamais m'en sortir et là bizarrement il y a Dieu qui vient avec sa paix, tes circonstances ne changent pas. Mais c'est ton intérieur qui est rassuré par la paix de Dieu. Et à l'inverse, je pense qu'on a tous déjà vécu un moment d'injustice où là, tu as envie que quelqu'un vienne te délivrer, tu as envie que Dieu agisse, mais il ne se passe rien. Et là, tu fais comme Jésus à la croix et tu dis, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'aimerais dire, et les théologiens défendent ça, la plus grande souffrance que Jésus a vécue, ce n'est pas une souffrance physique, c'est le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu. Et ça, c'est la plus grande souffrance. Et indirectement, c'est la plus grande souffrance qu'on vit, toi et moi, à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on souffre. Ce sentiment-là, je parle de sentiment parce que Dieu ne nous abandonne pas, mais c'est le sentiment qu'on a. Exemple concret, ma fille Blanche de 3 ans et demi, il y a une semaine ou deux, elle était dans l'église et puis il y avait du monde, puis elle est tombée, puis elle s'est fait mal, puis elle a pleuré, comme ça va arriver 1000 fois dans sa vie, comme tous les enfants à qui ça arrive. Et c'était marquant de voir à quel point son premier réflexe, elle est tombée, elle pleure, et son premier réflexe, c'est de chercher ses parents. Et de voir où est maman, où est papa. Et après, sa mère l'a pris, et puis elle a été rassurée. Et en fait, la première question qu'elle se pose quand elle tombe, et on est tous pareils, adultes aussi, la première question que tu te poses quand tu as peur, quand tu es effrayé, quand tu tombes, c'est « Est-ce que mes parents vont m'abandonner ? Est-ce que mon père, ma mère va venir me consoler ?» Il y a Dan Allender, c'est un prof en relation d'aide et puis un conférencier qui dit la chose suivante. À chaque fois qu'on ressent de la peur, à chaque fois qu'on ressent juste de la tristesse ou qu'on est en colère, à l'intérieur de nous, il y a cette question, est-ce que Dieu va m'abandonner ? On se pose tous cette question. Et la plus grande souffrance, c'est de se répondre, oui, Dieu va m'abandonner. C'est la plus grande souffrance que tu peux ressentir. C'est pourquoi quand Dieu dit à Josué, « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas », il va au cœur de sa plus grande peur. Transition de vie avec Moïse qui part, Jésus qui prend la place, et Dieu le rappelle. Tu te poses la question, est-ce que je vais t'abandonner ? Non, non, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce n'est pas juste une chose basique qu'on répète comme ça, c'est un des plus grands réconforts que tu peux avoir, de savoir que Dieu est fidèle, savoir que Dieu est présent, qu'il ne va jamais t'abandonner, même quand toi tu vas l'abandonner. Même quand toi, tu vas chuter, tu vas faire des erreurs, Dieu ne t'abandonnera jamais. Première source d'encouragement. Dale Ralph Davis, qui est un théologien, a dit la chose suivante. Il n'y a rien de plus essentiel pour le peuple de Dieu que d'entendre leur Dieu le répéter au milieu de toutes leurs circonstances changeantes. Je serai avec toi ou je ne t'abandonnerai pas. On le lit souvent, mais c'est une des choses les plus importantes pour nous. Première source d'encouragement, la présence de Dieu. Deuxième source d'encouragement, sa parole, sa présence et sa parole. Josué 1, versets 7, 8. « Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter un mot important pour la suite. Sans cesse les paroles de ce livre, de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. » Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Combien sont heureux d'avoir la Bible, qui est un vieux livre, mais qui est la parole de Dieu, une parole de Dieu vivante, qui te parle encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a été écrite il y a plus de 2000 ans en arrière. Qui a déjà vécu ce moment-là où tu te poses une question, tu l'ouvres, et tu as ta réponse noire sur blanc ? Moi, j'ai déjà vécu ça, ok ? Bon, je ne conseille pas de faire ce que j'ai fait. Moi, à l'époque, quand je me suis converti, j'ouvrais la Bible au hasard et je mettais mon doigt. Comme ça, ok, RP serait vraiment pas d'accord avec ça, ok, mais moi non plus je ne suis plus d'accord avec ça. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il respecte la façon dont on lit la Bible aussi. Et c'était pour savoir si je devais venir à Strasbourg, c'était en 2014, et je m'étais inscrit à une formation, non, je voulais m'inscrire à une formation de maçonnerie à Strasbourg, et je voulais vraiment savoir si c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai même passé un temps de jeûne et prière, tout ça. Je voulais vraiment entendre la voix de Dieu. Et là, je prie, je fais, Seigneur, dis-moi littéralement si je dois aller faire cette formation. Je prends la Bible, je l'ouvre au hasard, je ne sais même plus où je suis tombé. Je fais ça, je pose mon doigt et je lis littéralement, tu iras poser des briques. Véridique. Ça m'a fait peur. J'ai fermé la Bible, je fais, oh, ça marche. Ok, incroyable. Je sais même plus où c'était. Peut-être que c'était dans le sommaire. C'était même pas dans la Bible, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'était dans la Bible. J'ai mis mon doigt, ça m'a parlé. J'ai eu peur. Je fais, oh, Dieu parle vraiment. Ok? C'est fou. La Bible peut te parler personnellement dans des questions spécifiques que tu as. Et ça, c'est incroyable. Mais par contre, je dois vous avouer, justement, dans cette période où je lisais la Bible un peu je pensais être bon, souvent la Bible était décourageante pour moi. Pour deux raisons. Premièrement, je la lisais mal. Je ne savais pas quelles questions me poser quand je lisais le texte. Le premier livre que j'ai lu, c'était Job. Ça m'a vraiment découragé. Surtout les 35 premiers chapitres. Ok, c'est le premier livre que j'ai lu, je viens de me convertir, j'étais en feu pour Dieu. Je dis ça, je dis « Wow, on va lire les évangiles, ok, on va lire autre chose. » Ok, si tu ne sais pas comment lire la Bible, ça peut être décourageant. Et j'aimerais juste citer Alfred Kuhn, un théologien qui venait de Strasbourg, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle « Comment lire la Bible ?» tout simplement, qui répond à la question. Et il va dire « Voici quelques questions à se poser pour méditer la Bible, qui vont nous aider à retirer le sens du texte et à l'appliquer pour nos vies. » Voici ce qu'il va dire, quelques questions à se poser. « Que nous enseigne le texte concernant Dieu le Père, la personne de Jésus et son œuvre, et le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que tu apprends sur Dieu ? Est-ce que le texte met en avant l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix, des questions à se poser? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu et sur la Trinité? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre avec l'aide de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux appliquer maintenant, dans ma journée, pour ma vie en général? Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Okay? Quand dans l'Ancien Testament tu vois tous les meurtres qu'il y a, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu tues des gens. Mais peut-être qu'il y a un mauvais exemple à éviter. Est-ce qu'il y a un avertissement auquel je dois faire attention? Est-ce qu'il y a une promesse à croire et à proclamer? Est-ce qu'il y a une réponse à une question biblique ou personnelle, comme moi je l'ai vécu? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre pour moi la journée? Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, avant d'aller au travail, je prie, puis là, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit « Aujourd'hui, amène de la joie au travail, tes collègues en ont besoin. » Et peut-être que tu l'as déjà vécu aussi, puis la Bible peut parler dans ce sens-là aussi. Comment prier suite à ma lecture? Est-ce que le texte encourage à être reconnaissant? Passe un moment de reconnaissance avec Dieu. Est-ce que le texte encourage à encourager d'autres? Ben, envoie un SMS à quelqu'un. Est-ce que le texte encourage juste à intercéder pour une situation? Intercède derrière. La mise en application tout de suite et après. Donc voici quelques questions à se poser. Donc premièrement, il faut savoir comment lire la Bible. Et deuxièmement, la raison pour laquelle ça me décourageait, c'est que je n'avais pas compris un principe. La Bible est une nourriture spirituelle. Et là, si tu n'as jamais entendu ça, tu t'imagines, moi, en train de manger la Bible à la fourchette? Non, on ne parle pas de ça, là. On ne parle pas de manger la Bible littéralement. La Bible est une nourriture spirituelle. Tu as besoin de manger spirituellement. Raymond Pierre a prêché il y a deux semaines sur, justement, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8, sur ce clash qu'il y a à l'intérieur de nous, entre les bons désirs et les mauvais désirs. Les mauvais désirs, c'est ce qui déshonore Dieu. C'est passer à côté de son plan, c'est faire souffrir les autres, c'est faire des choses avec lesquelles Dieu n'est vraiment pas en accord. C'est la calomnie, c'est la critique, c'est le fait de décourager, c'est le fait de mal parler, c'est le fait de faire du mal aux autres, etc. Et les désirs de l'esprit, c'est tout l'inverse. C'est la paix, la joie, c'est encourager les autres, c'est obéir à Dieu, c'est faire de la parole ses délices, etc., etc. Et la vérité, c'est que tu vas suivre les désirs que tu nourris le plus. Indirectement. En fonction de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, et même en fonction des actions que tu répètes. Tu es en train de modeler ton cerveau et de lui dire quelles sont les bonnes habitudes à prendre. Il y a aujourd'hui la science qui approuve ce que la Bible dit depuis 2000 ans. L'apôtre Paul va dire « Soyez renouvelés dans votre intelligence ». Et en gros, ce qu'il est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment renouvelés. Et en fait, il est en train de dire « C'est possible de remodeler son cerveau avec l'aide du Saint-Esprit ». C'est possible. Et la manière dont le cerveau il fait, c'est juste incroyable. Au plus tu vas répéter une action, au plus tu vas répéter une pensée, au plus ton cerveau va se modeler et ça va devenir la norme pour toi. C'est pourquoi des enfants à qui on le répète, tu n'y arriveras pas, il y a forte chance que plus tard, ils n'y arrivent pas et qu'ils ne fassent rien de bon. Parce que c'est ce qu'on leur a répété constamment. Alors que, et ça se voit même dans le monde séculier. J'ai vu un reportage sur Arnold Schwarzenegger. Je pense qu'on connaît tous Arnold, c'est un sacré personnage, puis j'ai voulu m'intéresser à sa vie. Et en fait, toute sa vie, il s'est répété, je vais y arriver. Il a dit, je vais y arriver, je vais devenir Mister Olympia pendant... Il a eu 13 titres, je crois, et y arriver. Il a dit, ouais, je me suis toujours répété ça quand j'étais jeune, je vais y arriver. Et après, il s'est dit, j'ai envie de devenir acteur, j'ai envie de devenir une star, je vais y arriver. Et il est devenu acteur, et un des acteurs les plus connus de la fin du XXe siècle. Et après, il s'est dit, je vais être sénateur. Et il l'a fait. C'est incroyable. Il s'est répété, puis il a modelé son cerveau sur « Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. » Puis là, je ne parle pas de coach de vie. J'ai juste que la Bible, au plus tu la lis, au plus tu la répètes, au plus tu lis les vérités qu'il y a dedans, au plus ça vient modeler ton cœur et ton cerveau, et au plus tu vas obéir à Dieu. Tu suis les désirs de que tu nourris le plus. C'est exactement comme le sport. Ok. En ce moment, moi, ça, depuis début août, est-ce que vous avez vu que j'ai perdu 2 kilos depuis un mois? Non. Ok. Ma balance, je me suis acheté une balance. C'est très dangereux de faire ça. Je me suis acheté une balance qui calcule tout dans ton corps. Okay, le taux de protéines, le taux de... Et en fait, la balance, je la surnomme la conviction de péché. Parce que quand tu montes la première fois dessus, tu dis, je suis pas bon là, c'est vraiment pas bon, je suis pas prêt pour les JO. Et mais ce qui est cool, c'est qu'elle te dit tout ce dont tu as besoin et tous tes objectifs. Et la vérité, c'est que si je veux prendre du muscle, si je veux entretenir mes muscles, il faut que je mange quoi? La protéine. La protéine vient nourrir ton muscle. Et si tu n'en manges pas assez, tu vas vivre ce que tu appelles une atrophie musculaire. Tes muscles vont commencer à réduire. Il faut que tu manges bien et sainement pour entretenir ta forme et tes muscles. Et c'est pareil avec le côté spirituel. C'est pareil avec le côté spirituel. Si tu ne manges pas assez, si tu ne nourris pas ta foi c'est ton muscle spirituel. Si tu ne nourris pas assez avec la parole, alors tu vas vivre une atrophie spirituelle. Sauf que ça va se manifester différemment. Ce n'est pas que tu vas moins croire, c'est que tu vas croire des mensonges. Parce qu'on croit tous quelque chose. Même si tu es là et tu es athée, tu crois quelque chose. Tu crois que Dieu n'existe pas. C'est une croyance. Et je respecte ça. Mais la manière dont ça se formule, si tu nourris pas ta foi, tu vas commencer à croire des choses inverses à ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, on s'en aperçoit rarement tout seul. Tu as besoin des autres, tu as besoin de lire la Bible pour te rendre compte. Si tu manges, si tu arrêtes de manger spirituellement, ton muscle de la foi va réduire. Et ce n'est pas tant que tu vas moins croire, mais tu vas croire sans te rendre compte des mensonges déguisés en vérité. Que pour toi, c'est vrai. C.S. Lewis, il y a un érudit, un théologien du 20e siècle, qui a écrit notamment les chroniques de Narnia, a écrit un livre qui s'appelle « Tactique du diable ». Un livre incroyable où il met en scène un démon qui enseigne à un de ses disciples comment tenter les chrétiens? Comment éloigner les chrétiens de Dieu? C'est super imagé, mais c'est super pertinent. Il a écrit ça dans les années 30-40. Et à un moment donné, tu as le démon qui parle à son disciple sur justement comment il nous tente en mettant des pensées ou peut-être en utilisant une autre technique. Mais voici ce qu'il dit. C'est amusant. Comme le commun des mortels, donc nous, s'imagine que nous sommes sans cesse affairés à leur mettre des idées dans la tête, alors que c'est en empêchant certaines pensées d'y pénétrer que nous faisons le mieux notre travail. Là, il est en train de dire à un chrétien qui ne lit pas sa Bible, on n'a rien à faire, c'est bon. Il va croire des mensonges sans avoir besoin de lui mettre dans la tête. Parce que tu vas te remplir de quelque chose. Tu peux pas nourrir des mauvais désirs et pas nourrir des bons désirs. Tu vas nourrir certains désirs. Tu vas te remplir de quelque chose, c'est obligatoire. Et si tu ne te remplis pas de la vérité de la parole de Dieu, tu vas croire des mensonges. Un homme a dit... Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et l'homme qui a dit ça, c'est Joseph Goebbels, le directeur de la propagande d'Adolf Hitler. Et c'était sa technique. Pour emmener le peuple allemand à croire toute l'idéologie d'Hitler, il a répété des mensonges. Et c'est devenu une vérité pour des millions de personnes. Il faut que tu te remplisses de la vérité. Il faut que tu manges la parole de Dieu parce que c'est ça qui va venir nourrir ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'au plus tu vas méditer la Bible, au plus ta foi va grandir. C'est aussi simple que ça. Nourris ta foi, médite la parole, répète cette habitude et tu vas t'y conformer sans même t'en apercevoir. Tu vas être beaucoup plus apte à obéir à Dieu. Que t'as beau faire du sport, si tu te nourris mal et tu manges McDo tous les midis, le sport fera pas grand chose. Et là, j'ai personne en tête. Ah, je rigole. On s'encourage avec l'équipe à faire du sport, mais des fois, c'est compliqué. Je ne dis rien. Deuxième source d'encouragement, la parole, l'obéissance. Le même théologien que tout à l'heure, Delph Ralph Davis, a dit la chose suivante. Une vie qui plaît à Dieu ne découle pas d'expériences mystiques ou de sentiments chaleureux, ni d'un nouveau gadget préconisé dans une publication récente de l'un de nos éditeurs évangéliques. Non, non. Elle découle de la parole que Dieu a déjà prononcée et de l'obéissance à cette parole. Une vie qui plaît à Dieu, c'est une obéissance à cette parole. Et Jésus le dira d'une autre manière. Celui qui m'aime garde mes commandements. Langage de l'amour de Dieu, l'obéissance. Deuxième source d'encouragement, la parole. Troisième source d'encouragement, ton église. Vous. On peut être une source d'encouragement. Josué 1, verset 16-18. Là, c'est le peuple de Dieu qui encourage Josué. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Et un peu plus loin. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Et juste avant, Dieu va répéter ça 2-3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Et là, ils vont répéter ce que Dieu a dit. Le dernier encouragement que le peuple utilise, c'est la prière. Comme Matthieu l'a dit, Matthieu a prêché la semaine dernière sur 3 manières d'encourager. La prière, le fait de se voir face à face, et encourager toutes les générations à avoir accès à l'évangile. Okay, donner le flambeau, prêcher l'évangile aux enfants, aux aînés, etc. Favoriser à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'évangile. Et là, le peuple utilise la première technique que Matthieu a développée, la prière. Ils disent que l'Éternel veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Ils sont en train de prier. Mais ils vont utiliser une autre technique, en dernier. Ils vont répéter, fortifie-toi et prends courage. En fait, ils vont faire du plagiat de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le plagiat. Nous, avec Raymond Pierre, on est à l'aise parce qu'à l'école biblique, faire du plagiat, c'était citer quelqu'un sans mettre une note de bas de page. Et c'est interdit. Okay. Il y en a beaucoup qui font ça. Des fois, ils prennent des citations de leurs idées et puis ils disent que ah, c'est moi qui ai inventé. Non, non, c'est une citation que tu as lue dans un livre et puis tu n'as pas dit c'était qui. Et là, le peuple, il fait pareil. Il prend les paroles de Dieu, il les répète. Et moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, facile de faire ça. Aucune originalité. Tu aurais pu encourager d'une autre manière, tu aurais pu être créatif, tu aurais pu inventer tout ça. Je trouvais ça bizarre qu'ils répètent juste et qu'ils ne disent pas autre chose. Et après, j'ai vécu une expérience personnelle où... J'étais au Canada, je priais un matin, puis je priais pour certaines personnes. Et là, je sens qu'il faut que j'encourage quelqu'un. J'avais un prénom en tête, et puis je m'apprête à lui envoyer un message. Puis je priais pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'envoie. Et là, je pense vraiment entendre Dieu me dire, dis-lui que je l'aime tellement. Et là, je suis là, puis moi j'attends la suite, je fais, c'est bon, ça le sait, tu sais. Et puis non, je reçois que ça. Je pense vraiment qu'il faut que j'envoie ça, donc je l'envoie sans être trop convaincu. Et puis, j'étais au Canada, la personne était en France, donc il y a un décalage horaire, elle était en train de dormir, tout ça. Donc j'attends le soir, je reçois un message et la personne m'écrit « Waouh, merci énormément pour ton message. J'étais en train de jeûner et prier, puis je m'attendais vraiment à ce que Dieu me parle, et là, tu m'envoies ça. » Et là, ma réaction, ça n'a pas été « Waouh, trop bien, Seigneur, tu m'as utilisé. » C'était en mode bah, « Tu sais, c'est simple, j'ai juste dit que Dieu l'aimait, ce que tu trouves partout dans la Bible, c'est ce qu'on se répète tout le temps, puis qu'on prend pour acquis, tout ça. » Et à ce moment-là, quand j'ai cette réflexion, je sens vraiment Dieu me travailler et me dire « Mais non, mais Jérôme, t'as pas compris en fait. T'as pas compris qu'il n'y a rien de plus puissant que de se rappeler l'amour de Dieu. T'as pas compris qu'il n'y a rien de plus puissant que de se rappeler les basiques de Dieu, que je serai toujours avec toi. T'as pas compris qu'il n'y a rien de plus puissant que de répéter mes paroles et de les dire aux autres. » C'est exactement ce que le peuple fait. « Hé, n'oublie pas Josué. » Dieu t'a dit de te fortifier, de prendre courage. Alors, tu sais quoi? Fortifie-toi et prends courage. Et en tant que prédicateur, à tous les dimanches matins, on vous fait juste répéter ce que Dieu nous dit, en fait. Et ce que Dieu vous dit déjà. On fait juste répéter ce qui est écrit dans la parole. On le dit d'une manière différente. Mais si un jour, on prêche autre chose que ce qui est écrit dans la parole, faites en sorte qu'on arrête de prêcher, s'il vous plaît. Parce qu'on prêche la Bible. Et on prêche seulement ce que Jésus a déjà dit et ce que Jésus a déjà fait. Rien de plus, et on n'a rien besoin de plus que de ça. Que de se rappeler que Dieu nous aime. Que de se rappeler que son Saint-Esprit il est là pour nous transformer. Que de se rappeler que sa paix, sa parole sont présentes pour nous aujourd'hui. Que Dieu ne nous abandonnera jamais. Je vais appeler l'équipe de louanges à s'avancer. Un des meilleurs encouragements qu'on peut faire, c'est de répéter les paroles de Dieu. On ne se trompe jamais à répéter les paroles de Dieu. Il y a des timings à respecter. Mais toutes les paroles encourageantes de Dieu sont bonnes à se rappeler pour nous-mêmes et pour les autres. Un jour, je suis tombé sur un verset qui m'a vraiment impacté concernant l'encouragement. Hébreux 3, verset 12-13. Faites attention, frères et sœurs. qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Littéralement, le texte est en train de dire « Encouragez-vous afin qu'aucun ne s'éloigne de Dieu. » Donc là, il est en train d'expliquer une chose. Quelqu'un qui manque d'encouragement peut s'éloigner de Dieu. C'est ça qu'il dit littéralement. Et là, combien de chrétiens moi j'ai rencontrés qui ah non, moi j'ai quitté l'église, j'ai abandonné Dieu parce qu'on m'a dit des paroles qui m'ont vraiment découragé à l'église. Et là, je pense qu'on brise le cœur de Dieu à faire des choses pareilles. Il y a un pouvoir, il y a une capacité, il y a un miracle qui se passe quand on prend juste le temps de dire à des gens « Hey, sois juste encouragé, je prie pour toi, Dieu t'aime, on est avec toi. » On le voit beaucoup dans le sport. Et le Tour de France, souvent, où on encourage les cyclistes, et puis nous, on pense que c'est juste des paroles. Non, ça encourage vraiment. Dans le sport, là, quelqu'un qui n'est pas encouragé, il ne va pas bien loin. Moi, je le vois avec ma fille. Un moment marquant, avec ma fille Blanche, quand elle commençait à marcher à quatre pattes, tout ça, puis je la mettais à 3-4 mètres, et puis je disais, vas-y, maintenant, viens voir papa. Et puis, elle était distraite par ce qu'il y avait à côté. Ah, oh, un jouet, j'y vais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis cru dans une course folle où ma vie était en jeu. Je fais, non, reste focus sur moi, avance. Et puis là, elle faisait, oh, ok, j'y vais. Et puis là, oh, elle fait, oh, ok, j'y vais. Et là, c'est fou, à la fin, je me suis vu à la place de Blanche et Dieu me dire non, reste focus sur moi. Ne te détourne pas à droite ni à gauche. Reste focus sur moi. Continue. Avance. Je sais que c'est tentant de la droite à gauche. Ici, c'est tentant de. Non, reste focus sur moi. Et ça, c'est juste des encouragements. Des encouragements répétés qui viennent te garder dans le droit chemin, qui viennent te garder auprès de Dieu et te dire non, reste. Dieu t'aime. Dieu t'aime. T'as chuté, mais rappelle-toi que Dieu t'aime encore. Dieu pardonne. Sa grâce est limitée. Sa grâce est plus grande que ton péché du moment. Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Dieu fait grâce. Et là, peut-être que tu en as marre de m'entendre. Ah ben, je veux quand même te le répéter. Dieu t'aime. Dieu te fait grâce. Dieu sera toujours là. Et il n'y a rien qui pourra te séparer de son amour. Et ça, si ça nous fait du bien, le dire aux autres, ça va leur faire du bien. Il y a un pouvoir dans le fait d'encourager d'autres personnes. Larry Crabb, psychologue et conférencier chrétien, a dit la chose suivante. Dieu veut que nous soyons des personnes qui utilisent les mots pour s'encourager les uns les autres. Parce qu'on peut l'utiliser aussi pour détruire. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Un mot bien choisi a le pouvoir d'encourager un coureur à terminer la course, de raviver l'espoir lorsque le désespoir s'est installé, d'apporter un peu de chaleur dans une vie autrement froide, de déclencher une auto-évaluation saine et amusante chez des personnes qui ne pensent pas beaucoup à leurs défauts. Parce que la conviction de péché, c'est aussi un encouragement. De renouveler la confiance lorsque les problèmes prennent le dessus. Moi, une des choses, je termine avec ça, une des paroles qui m'a le plus encouragé, c'était au tout début de ma vie chrétienne. J'étais ma première année de mono au camp de ski où je me suis converti. Il y avait Mathieu qui était là, il y avait Magali, il y avait différentes personnes de l'équipe qui étaient là. Et je me suis toujours posé la question dans ma première année, est-ce que Dieu est fier de moi ? C'était super important pour moi. J'étais comme un petit gamin qui aspirait à rendre fier son père. Et je me suis posé cette question, puis je suis venu au camp avec cette interrogation. Et puis je voulais vraiment savoir, est-ce que je fais la joie de mon père ? Est-ce qu'il est content ? Et puis on passe un moment, le matin de ressourcement, on prie ensemble, etc. Et là, Mathieu, je lui ai rappelé il y a 2 jours, il avait oublié. Il reçoit une parole de connaissance ou un don spirituel. Et là, il dit littéralement, t'es ici ce matin, tu te poses la question si Dieu est fier de toi. Et il veut juste te répondre, oui, il est très fier de toi. Et c'est anodin, là, j'ai des larmes aux yeux parce que moi, ça a changé ma vie, ce truc-là. Je suis fier de toi. 4 mots qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. 4 mots qui peuvent faire la différence. Puis ça peut être 4 mots, 3 mots, 2 mots, mais l'encouragement a un impact incroyable. Tu peux sauver des vies. Tu peux faire en sorte que des gens restent accrochés à Dieu, même si c'est dur. Tu lises ta langue pour procurer la vie. Et c'est exactement ce que Dieu va dire à Josué. Dans la deuxième source d'encouragement, il va dire « Fais en sorte que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, mais qu'elle reste avec toi jour et nuit. » Et en fait, tous les gens disent qu'en disant ça, Dieu encourage Josué à partager la parole autour de lui. Qu'elle ne se donne pas de ta bouche. Peu importe avec qui tu discutes, que dans ta bouche, il y a toujours la Bible. Il y a toujours les paroles de Jésus. Et j'aimerais vous encourager. Il n'y a pas meilleur moyen que de partager un encouragement qui vient de la Bible que dans des petits groupes. Que en invitant des gens chez soi. En mettant en pratique l'hospitalité. Il n'y a pas meilleur moyen. Tu peux vivre ici un dimanche matin, mais je pense que Dieu veut plus que ça. Je pense que Dieu veut qu'on utilise notre langue, nos mots, et même si tu dis que tu n'as pas beaucoup de vocabulaire, répète les paroles de Jésus, c'est très simple. Répète les paroles de Jésus. Le dictionnaire d'encouragement se trouve dans la Bible. Répète ce que Jésus a fait aux autres. Répète que ce qu'il a fait, c'est irrévocable. Répète son amour, répète sa grâce, répète son pardon. Ça ne peut ne faire que du bien et encourager. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'Église, en tant que membre personnel, puis en tant qu'Église, à encourager les autres. Ma plus grande peur, c'est d'arriver au ciel et puis de pas avoir eu une vie qui a assez encouragé d'autres. À travers mes messages, mais aussi à travers mon attitude, à travers tout, à travers... Mais je veux encourager d'autres. Je veux que ma vie encourage d'autres. Je veux que ma vie serve à ce que d'autres rencontrent Jésus. On prie ensemble ? Priez pour vous, pour nous. Seigneur, merci parce que tu es la personne la plus encourageante. Merci parce que tu te fatigues sans cesse de nous répéter ton amour, de nous répéter dans ta parole que tu nous aimes, que la croix est suffisante, que tu es fier de nous, qu'on est tes enfants. Et si un jour, Seigneur, et peut-être c'est aujourd'hui, peut-être qu'on est lassé d'entendre les mêmes choses, je te prie, Saint-Esprit, de venir raviver notre conscience à ce que, oh, non, c'est la chose la plus importante. Dieu est avec nous jusqu'à la fin des jours. Dieu nous aime, Dieu nous garde. Et je te prie de nous aider à le partager autour de nous. Je te prie qu'on puisse vivre, Seigneur, ce qu'on prêche depuis un an, la koinonia, la communion fraternelle, et qu'on donne des paroles de vie. Et que pour ça, on ait nos temps à se ressourcer avec la nourriture spirituelle qui est ta parole. Qu'on se remplisse nous-mêmes d'abord de tes mots, de ta parole, de la Bible, pour qu'on puisse se déverser sur les autres. Viens nous aider, s'il te plaît, Jésus. On a besoin de toi, on reconnaît ça. Et quand on reconnaît qu'on a besoin de toi, tu prends plaisir à agir. Parce que tu fais grâce aux humbles. Viens agir, Jésus. Amen.
On va prendre ce chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Ça va vraiment avec le message que Jérôme a apporté. En Jésus, on sait qui on est. On est pardonné. On est ses enfants. Alors si vous le voulez bien, on va se lever pour vraiment proclamer « En toi, je sais qui je suis ».
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je t'ai esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré.
J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Amen, quelle déclaration. Je suis à lui, nous sommes à lui. Vous pouvez prendre place un instant en gardant en pensée d'être des encourageurs, en rappelant ce que Dieu nous dit à nous. On va vivre un temps nouveau dans l'histoire de nos célébrations, un temps important. Juste avant, j'ai oublié une information importante. Donc je le dis maintenant pour qu'on puisse être tout à fait à l'aise pour la suite. C'est que pour pouvoir aider les ados dans leur camp, ça coûte, et du coup il y a une vente de fromage qui est organisée, qui marche plutôt bien, et donc du coup les bons de commande sont au point accueil, il me semble. Donc n'hésitez pas à repartir, vous faites d'une pierre deux coups, vous êtes préparé pour inviter des gens à manger un bon fromage français, et en plus vous encouragez des ados dans leur week-end. L'équipe technique, merci beaucoup de venir. Je voudrais vous poser une question. Si je vous dis conseil d'église, qui peut m'expliquer, qui peut me dire ce matin, levez la main pour savoir, quand je parle de conseil d'église à l'église, qu'est-ce que c'est que le conseil d'église? Qui sait? Levez la main pour voir. Bien haut, bien haut. Ok. A contrario, quand je dis conseil d'église à l'épi, qui ne sait pas du tout de quoi je parle, levez la main. Allez-y, ben ça veut dire vous savez, alors levez la main bien haut, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi on va vivre ce moment-là maintenant. C'est pour qu'on puisse ensemble découvrir le conseil d'église de l'épi. On va le faire sous forme de focus, et il y en aura comme ça toute l'année, manière à toujours comprendre le sens de comment on vit l'église. Parce que des fois, on imagine qu'on arrive et on sait comment on vit l'église. En fait, on ne sait pas vraiment comment des fois les choses se passent. C'est qui prend les décisions? Comment ça se passe? Et l'idée ce matin, c'est de vous présenter le cœur et les missions du conseil d'église. Le conseil d'église, je le résume comme ça, c'est un conseil qui a pour objectif, pour cœur, d'accompagner efficacement la vie de l'Église. Du coup, je vais inviter trois représentants des trois équipes qui forment ce conseil d'Église. Le conseil d'Église est composé de l'équipe pastorale, et c'est Raymond Pierre qui va venir et qui va nous en parler un petit peu. Il y a un conseil spirituel aussi dans le conseil d'Église, et il va être représenté par Jacques Lopa, qui est papa et grand-père, je n'ai pas oublié depuis la dernière fois. Alsacien et Martiniquais, exactement. Et il y a aussi dans le conseil d'église, le conseil d'administration qui sera représenté par Xavier Pio, qui est le secrétaire de l'association cultuelle de l'église. On va vous les présenter de manière à ce qu'on soit dans une communauté de vis-à-vis. L'idée, c'est qu'on comprenne que l'église, c'est pas compliqué, c'est pas grand. C'est... Non, on est des frères et des sœurs, on sert ensemble. Et c'est un environnement qui favorise des relations. Donc voilà, on va se partager un petit peu les micros. Et puis on va commencer avec Raymond Pierre. Je vais poser trois questions très simples à chaque fois. De qui est composé chaque conseil, chaque équipe? Ensuite, l'émission. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et on va finir en s'encourageant avec un témoignage de la fidélité de Dieu. Donc on commence avec Raymond Pierre. Raymond Pierre, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ça fait longtemps.
En tout cas, voilà. Donc du coup, l'équipe pastorale. Alors de qui est composée l'équipe pastorale? Et ça va suivre aussi pour que vous puissiez les voir tous.
Alors voilà, vous avez les jolis visages de tous ces gens à l'écran. Donc il y a Mathieu qui est le pasteur principal de l'église et qui est aussi en charge de tout ce qui est groupe de vie. Ensuite, il y a moi pour la formation, donc tous vos soucis théologiques, c'est avec moi que vous venez les régler. Ensuite, il y a Anne qui est notre assistante pastorale et qui est la coordinatrice depuis cette année de tous les groupes 0-25. Ensuite, il y a Jérôme, donc qui vient de prêcher, qui nous a apporté la parole, qui sera sur toute la partie accueil, mais aussi en doublon avec Mathieu sur la partie développement des groupes de vie. Ensuite, on a un jeune pasteur qui a commencé il y a quelques années, Michel, pasteur retraité non pratiquant.
Exactement.
Qui est au sein de l'équipe. Et enfin, on a des vrais jeunes pour le coup. Donc, on a Laura et Mackenson qui sont en formation pastorale au milieu de nous.
On peut déjà les...
Oui. Et qui s'occupent de la jeunesse.
Voilà, qui sont responsables de jeunesse. Est-ce qu'on peut déjà encourager l'équipe pastorale tranquillement, là?
Bravo.
Un jeune parmi les anciens ou un ancien parmi les jeunes, Jacques Lepa, parle-nous du conseil spirituel, de qui il est composé.
Oui, donc bonjour à tous. Le conseil spirituel est composé de...
Slide 2.
Trois frères et une sœur, voilà, dont les visages défilent. Juste une petite précision pour ceux qui connaissaient un peu, avant on parlait de conseil d'anciens. Mais nos travaux nous ont menés donc à ouvrir, à élargir donc le conseil, qui maintenant s'appelle conseil spirituel aux sœurs. Et donc maintenant, donc, à la place du conseil d'anciens, donc, c'est appelé conseil spirituel. Donc composé donc du plus ancien d'entre nous, donc Freddy Fried, ensuite moi, Jacques Lopa, Thierry Tsanga et la petite dernière, Anita Sobler.
Voilà, la photo va arriver dans le PowerPoint mis à jour que j'ai mis dans Eliakim. Celui-là, c'est la version 1. Merci beaucoup. on peut encourager le conseil spirituel. Je dis ça parce qu'il y a une belle photo d'Anita. Et j'ai envie qu'on la voie, elle est toute souriante et tout. On finit avec le dernier conseil, le conseil d'administration. Et ce matin, c'est toi, Xavier, qui va nous les présenter.
Merci, voilà. Alors, on est 9 et très, très prochainement 10 personnes au sein du conseil d'administration. Alors, on a 3 sœurs et 7 frères, voilà. Alors, Mathieu, Xavier, moi-même, donc, Freddy, Nathalie. Alors, on a 2 Nathalie. Nathalie Remeter, Nathalie. En dessous, on a André qui rejoint le conseil tout nouvellement, Michael, Margarita, Jonathan et puis Alexandre.
Voilà, on peut aussi les encourager. Tous ces frères et ces sœurs travaillent conjointement ensemble et ont des missions spécifiques parce que tout notre cœur ici à l'EPI, c'est qu'il ne faut pas qu'une église repose sur un homme. On ne veut pas développer un système pyramidal. On veut vraiment travailler de manière organique, participative, les uns avec les autres. C'est pourquoi je vais te poser la première question. Je vais vous poser la question, les gars, sur les missions. Quelles sont les missions de l'équipe pastorale, Raymond Pierre?
Il y a plusieurs missions qui nous sont dédiées. La première, c'est l'impulsion de la vision dans la dynamique de l'Église. Donc, quand on parle de vision, je vais vous citer juste un point de notre vision. Il y a un focus qui est important pour nous ici à l'EPI, c'est que nous croyons que c'est l'amour et la grâce de Jésus qui transforment des gens, pas une morale chrétienne. Donc on va mettre une grosse emphase, et je pense que vous l'entendez dimanche après dimanche, une grosse emphase sur la grâce, parce qu'on croit que c'est elle qui peut transformer les gens. Et c'est pas parce qu'on met une emphase sur la grâce qu'on est transigeant avec le péché. C'est qu'on croit que c'est la grâce qui nous libère du péché. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, il y a tout ce qui touche à la formation et l'accompagnement des disciples et des leaders. Donc que vous soyez nouveau dans la foi ou vous soyez déjà en responsabilité d'église, une des missions de l'équipe pastorale, c'est de pouvoir vous encourager spirituellement, de vous accompagner dans ce que vous pouvez vivre avec Dieu, vous encourager dans votre foi, mais aussi dans la découverte et le développement de vos dons. Donc c'est vraiment une des missions. Donc pour ça, on va mettre en place des formations, qu'elles soient individuelles, pour ce qui touche à votre vie personnelle. On va accompagner les couples, par exemple, aussi, pour les former, les accompagner dans ce qu'est le mariage, mais aussi des formations qui vont concerner votre service dans l'Église. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les soins pastoraux ou la relation d'aide. La relation d'aide, ça va toucher à, par exemple, des situations de crise. Vous vivez un divorce, vous venez de perdre quelqu'un, vous êtes touché par la maladie. Un des aspects que les pasteurs développons, c'est vraiment de prendre le temps avec les gens qui sont en train de passer par ces situations de crise. Une autre situation, par exemple, c'est tout ce qui touche à la famille et aux problèmes modernes. Donc on va accompagner des gens, des couples, dans des situations pas évidentes, ou accompagner des familles face aux défis de la vie moderne. Et puis un autre aspect, c'est ce qui touche aux dépendances ou aux addictions, où on va commencer à accompagner. Forcément, pour toutes ces choses-là, dès que ça demande un peu plus d'investissement, on va savoir réorienter aussi avec des services compétents en relation d'aide par rapport à ça. Et puis ensuite, et enfin, je dirais, l'enseignement. Le petit-fils de Billy Graham a dit la chose suivante. Il y a deux manières de lire la Bible. Soit vous êtes le héros qui cherchait à atteindre le ciel, soit la Bible nous parle du héros qui est descendu du ciel et qui est venu vers nous. Et c'est celui-là, c'est cette version de la Bible qu'on veut transmettre et communiquer à l'épi. Le héros de la Bible, c'est pas vous. Le héros de la Bible, c'est Jésus. Et c'est lui qui libère et c'est lui qu'on veut présenter. Voilà.
Bon, bon. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. Dernier point sur la prédication, c'était vraiment bon. Jacques, les missions du conseil spirituel.
Donc le conseil spirituel, pour que vous puissiez bien comprendre, donc nous nous réunissons donc le premier jeudi du mois, entre 18h et 18h30, sur une période de 2 ou 3 heures. Et il y a une chose qui est importante à dire, c'est que le conseil spirituel, quand il se réunit, donc il ne se réunit pas seul, les quatre que vous voyez là, mais comme le conseil spirituel a un rôle de soutien, d'entraide et de travail en commun avec l'équipe pastorale, donc à la vision spirituelle de l'Église. Donc c'est pour cela que le jeudi, le premier jeudi du mois, nous nous réunissons ensemble les deux entités, équipe pastorale, conseil spirituel, avec un but, ben justement, de travailler donc à l'aspect spirituel de l'Église. Un exemple concret pour bien comprendre, vous savez que Pierre Samuel est parti dernièrement, il a répondu à l'appel de l'église de Bourgoin-Jallieu, et à un moment nous avions eu à travailler donc à son remplacement. Donc l'équipe pastorale a travaillé de son côté, l'équipe du conseil spirituel également. Nous avons mis tout ça ensemble pour pouvoir trouver un consensus et dégager celui qui pourrait effectivement succéder en la personne de Jérôme Cantelberg, auquel nous sommes donc concernés enfin, donc tous ensemble. Donc vous voyez, donc là nous avons abordé l'aspect spirituel. On n'a pas touché par exemple à ce qui est finance, etc., mais on est sur l'aspect spirituel de l'Église. Par exemple, ce premier conseil de septembre, nous avons parlé donc du prochain jeûne et prière qu'il va y avoir. Et là nous avons décidé ensemble quels sont ceux qui vont intervenir, etc. Donc nos réunions tournent autour de la vision de l'aspect spirituel. Aussi de partager ensemble sur les frères et sœurs, les informations qui nous remontent, nous, conseil spirituel, à transmettre au conseil pastoral et également vice-versa, du conseil pastoral au conseil spirituel, pour que nous puissions travailler ensemble et que chacun puisse se sentir heureux dans l'Église.
Merci beaucoup, Jacques. Incroyable. Efficacité. Une veille, un soutien, un encouragement sur la vision. Les missions du conseil d'administration.
Alors, le conseil d'administration, quelque part, vous voyez, on a besoin de prendre des décisions pour faire fonctionner toute l'Église. Nos pasteurs, par exemple, ils ont besoin d'être quelque part rémunérés comme un salaire. Alors, on a un autre vocabulaire. Hein.
Des émoluments,
voilà,
on appelle ça.
C'est particulier. Anne aussi qui est salariée. Donc il y a un certain nombre de décisions pour le fonctionnement de l'Église qui sont nécessaires. Et on pourrait, en tant qu'association cultuelle, dire ben non, ce projet-là, on ne veut pas le financer. Donc on a aussi besoin pour nous, en tant que membres du CA, d'avoir un rôle spirituel pour comprendre vers où va l'Église et pouvoir dire ben on va prioriser et on va autoriser un financement pour telle ou telle œuvre ou telle action. Un exemple. Mathieu vous parlait il y a quelque temps de un encouragement à vivre entre vous des temps de convivialité. Ok. Bah, manger ensemble sous couvert de l'Église, À un moment donné, ben, il faut acheter de la nourriture. Éventuellement, il faut aller même réserver pour aller faire un temps convivial à Europa Park ou je ne sais où, peu importe.
Et faire un culte, parce que c'est culturel, un culte à Europa Park. Tu
vois,
oui,
pourquoi
ça.
Pas. Okay. Et vous savez qu'il y a des fiches budget pour les différents services de l'Église. On a un budget annuel et tous les ans, on sollicite de la part de chaque responsable, voilà, combien d'argent, concrètement, il te faut pour financer toute l'année 2024 à venir, voilà. Et on vous demande de réfléchir et de dire, ben voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'acheter des tables, j'ai besoin d'acheter des nappes, il faut acheter de la nourriture pour nos événements, ou il faut concrètement acheter des micros, acheter une nouvelle enceinte, des éclairages et autres. Et à un moment donné, on va devoir dire, ben ok, on y va, on suit. Et il y a des entrées et des sorties financièrement, donc il y a un budget à équilibrer et on ne peut pas investir et ne pas avoir suffisamment de finances qui rentrent pour pouvoir équilibrer et puis être serein aussi dans le fonctionnement de l'Église. Donc on a des comptes à rendre pour vous tous pour avoir un budget équilibré et on doit voter de manière éclairée. Un exemple que je voulais aborder tout à l'heure, chaque service de l'Église à un moment donné a été encouragé pour le Koinonia et il s'est dit, ben, nous on va faire un événement cette année pour renforcer les équipes et puis ils ont dit, ben voilà, hop, on va faire quelque chose de particulier et puis ça va coûter... 200 €, on aimerait bien si l'Église pouvait participer. Puis il y a d'autres services, on dit, ben voilà, on aimerait bien faire ça, mais c'est un petit peu plus grand, ça concerne 50 personnes et on en a pour 2 500 €. Ok. Et quand tous les services ont fait leur liste des courses, un petit peu comme la liste des cadeaux de Noël, au niveau du conseil d'administration, on a fait des additions, puis on s'est dit, mais attends, on n'y arrivera pas, quoi, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de sollicitations sur ce domaine, alors même que c'est hyper important. Et on a réfléchi au niveau du conseil et on s'est dit ben il faut qu'on pose une règle de fonctionnement pour dire ben voilà, ok, on va y répondre, mais à une juste valeur ou à une juste mesure. Et la décision qui en est sortie suite à un groupe de travail qui s'est réuni pour bien donner une réponse qui tienne la route, eh ben c'était d'autoriser un forfait de 20 € sur l'année et par personne pour un service donné pour pouvoir vous permettre d'avoir des temps conviviaux sans pour autant prendre que sur vos deniers personnels. Voilà, c'est un des exemples d'un petit groupe de travail. Sinon, au niveau du conseil d'administration, évidemment, on a une réglementation à suivre pour avoir le droit de fonctionner en tant qu'association. On a des comptes à rendre à l'État. Quand vous demandez d'avoir un justificatif de don pour une association, là aussi, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles à tenir et on est censé nous être au courant de ces règles de fonctionnement pour que l'Église soit dans la légalité au niveau du gouvernement. Donc on a une réelle responsabilité pour protéger nos pasteurs, pour protéger tous ceux qui sont quelque part accompagnés financièrement, mais aussi pour protéger le fonctionnement de notre Église, pour qu'elle ait le droit d'exister et d'être en action, et de mettre en œuvre tout ce qui est porté spirituellement. Et c'est pas simple, on a un gros chantier qui arrive devant nous pour la remise en état complète de tous les statuts de l'association, avec, vous en avez sûrement parlé, le cultuel, le culturel, et on a des choix à faire, et on doit réécrire tous nos statuts, un super chantier. Et donc merci Mathieu, Jonathan et Freddy qui ont participé à ce groupe de travail, et puis on a hâte d'avancer sur ce sujet.
Voilà, on peut encourager le conseil d'administration au travers de Xavier. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une complémentarité entre les trois conseils qui travaillent, c'est très important. C'est Jésus nous a appelés à être un, il y a des responsabilités. Je disais à quelqu'un ce matin, à partir du moment où tu commences à avoir un enfant, ton organisation de vie change. Quand tu étais solo, tu vivais d'une manière. Quand tu commences à être 2, 3, 4 à la maison, tu dois t'organiser différemment. Et c'est pas nous qui avons fait en sorte de dire « Seigneur, on va être tant à l'épi ». La Bible dit « Dieu rajoutait ceux qui étaient perdus ». C'est Dieu qui a fait de nous l'Église qu'on est. Il va nous donner la sagesse et l'intelligence de pouvoir bien vivre ensemble, bien se coordonner ensemble. D'où le fait qu'il y a cet organe qu'on appelle le Conseil d'Église aujourd'hui parce qu'on veut rapprocher ces trois équipes pour des sujets, pour des points qui sont vraiment extrêmement précieux et importants pour nous. Et il y a des moments où on doit travailler tous les trois ensemble. Le CA peut pas travailler de son côté, il a besoin de travailler avec le CS et l'équipe pastorale. Il y a notamment trois missions missions qu'on a identifiées, et il y en a une qui vous, enfin, toutes vous concernent, mais il y en a une que je voudrais préciser pour parler pour le conseil conseil d'église. Quand on se réunit ensemble, on s'est réunis au moins 4 ou 5 fois l'année dernière. Ça faisait longtemps que c'était pas autant arrivé que tous les 3 organes travaillent ensemble. Il y a 3 missions importantes. Premièrement, c'est pour l'avenir du projet immobilier. Nous travaillons depuis plusieurs temps ensemble pour prier ensemble, s'unir en vision ensemble, et comme on vous l'a dit lors de l'Assemblée Générale de l'année dernière, que nous allons revenir vers vous courant 2023 pour vous proposer un projet qui aura été travaillé. Et je vous avais pas menti quand je vous dis qu'on collecte les informations, c'est vrai. Ça bosse, ça travaille de manière à ce qu'on puisse revenir vers vous avec un projet qui soit le meilleur dans ce que nous on peut être en tant qu'église de l'Épi, dans notre vision, dans nos potentiels, dans nos possibilités ou autres. Et donc on se rencontre à la fin de ce mois en CE pour continuer à travailler cette question de projet bâtiment. Et on vous le dit, nous serons prêts en 2024, on travaille fort pour venir devant vous lors d'une assemblée générale pour vous proposer un projet. On vous demande de prier pour cela. On sait, ici et là, vous nous interrogez, alors, comment, ici, cela. Nous avons fait le choix de ne pas parler pour rien dire, pas parler en donnant des choses et qu'après on doit revenir en arrière. On préfère attendre, prendre le temps de bien collecter les bonnes informations pour vous soumettre un bon projet. Donc encore un peu de patience. C'est dans les rails, on bosse, on avance, et voilà, on viendra devant vous, et vous aurez toutes les informations en temps et en heure pour étudier le projet, et pour voter, prier, jeûner et voter pour ce projet-là. Donc ça, c'est concerne le projet bâtiment. Le CE se rassemble aussi quand il s'agit de recruter, de pouvoir permettre à des hommes, des femmes qui ont des dons, des talents, des appels, des vocations, de pouvoir servir l'Église dans des postes clés et importants de l'Église. Que ce soit les pasteurs, que ce soit des coordinateurs de pôle, que ce soit des embauches ou autres. Là, le CE travaille conjointement, comme vous l'avez dit, ensemble. Le dernier point aussi, nous sommes une Église, il y a une vie d'Église. Parfois, il y a des personnes qui, ici ou là, après plusieurs années, seront plus forcément en phase avec la vie d'église ou vont changer ou autre. Et parfois, il peut y avoir des conflits. C'est une vraie vie, c'est la réalité. Il peut y avoir des conflits entre membres. Il peut y avoir différentes gestions à faire concernant la vie de l'église. Des fois, ça peut bien monter. Et là, le CE a besoin de se rassembler pour savoir comment on peut accompagner une personne en crise avec l'église ou autre, parce que parfois, voilà, nous on essaie de vous raconter la vraie vie, et le CE se rassemble, et l'objectif toujours derrière, c'est comment on sort de cette situation pour que Dieu soit honoré, que la personne et l'église, on puisse continuer à marcher, et qu'on soit pas affecté, intoxiqué par cette situation. Donc voilà les 3 sujets dans lesquels le conseil d'église en global se rencontre, l'immobilier, le recrutement de leaders clés et la gestion de conflits, de crises au niveau des membres et de la vie de l'église. Je voudrais qu'on puisse terminer ce temps, est-ce que ça va pour vous? C'est bon? Je voudrais terminer ce temps avec un témoignage chacun s'il vous plaît de votre service en équipe pastorale et après on va prier pour le conseil d'église.
Donc pour nous, pour l'équipe pastorale, j'ai partenu un moment, mais plutôt un état d'esprit. Et en 3 mots, je pense que ce qu'on vit, c'est joie, complicité et authenticité. Je pense que ça se voit que les pasteurs, on s'entend bien entre nous dans l'équipe. Les gens qui viennent la semaine au bureau, ils voient bien l'atmosphère qui est là. Et en même temps, authenticité, parce que bon, on se dit les vraies affaires quand il y a besoin de le faire. S'il y avait une phrase qui résume un petit peu ce qu'on croit, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, mais on prend Dieu au sérieux. Et c'est vraiment ce qui conduit un petit peu tout notre cœur et l'investissement qu'on fait. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on est spectateur chaque semaine de gens qui viennent nous partager ce qu'ils ont vécu avec Jésus. En fait, on est spectateur de la grâce de Dieu lorsqu'il est au centre et puis que nous, on ne se prend pas trop au sérieux, mais qu'on s'attend à lui. Voilà.
Merci.
Voilà. Dans la même pensée, je dirais que ce qui me frappe le plus souvent quand on travaille un conseil spirituel, nous sommes amenés des fois à prendre des décisions importantes. Et il arrive que, comme étant des hommes, des femmes aussi, nous n'avons pas forcément la même vision. Et à la sortie du conseil, nous ne sommes pas forcément d'accord. Et avant, on travaillait pour trouver une unanimité. Maintenant, nous travaillons à ce que nous pouvons trouver un consensus. Et qui dit consensus, dire que chacun se retrouve ensemble, discute, et on arrive à trouver un équilibre pour pouvoir avancer, pour que le projet ne soit pas bloqué. Et c'est ce qui, pour moi, est vraiment important, c'est ce témoignage que je ressens et que j'apprécie. La pensée de l'autre, la vision de l'autre, qui n'est pas pareille, peut-être même comparée même à celle de la majorité, elle est respectée. Et ensuite, il y a un travail en sagesse, en intelligence, pour que nous puissions trouver ce consensus qui va nous permettre d'avancer ensemble. Donc si moi j'ai quelque chose à retenir, c'est cela, parce que, et personnellement, je reste attaché à cette pensée quand il y avait conflit entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, il a dit qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, parce que nous sommes frères. Et donc, de la même manière, entre l'équipe pastorale, le conseil spirituel, il peut y avoir des divergences de vues, mais il n'y a pas de dispute, tout simplement parce que le but est de trouver ce consensus qui va nous permettre d'avancer et qui, en même temps, va rejaillir sur la vie de l'Église.
Merci Jacques, merci beaucoup. Fini avec toi Xavier.
Alors ce que moi je retiens dans cet engagement, et je recherchais des documents administratifs récemment et je suis tombé sur un compte-rendu qui date de 2007 où je venais de rentrer a priori à peu près dans l'équipe et combien je vois la fidélité de Dieu dans ma vie, mais aussi dans la vie de l'Église et dans la temporalité de Dieu, et que chaque chose en son temps, et qu'il y a une évolution de notre Église qu'on aime, et c'est parce que j'aime l'Église que je suis engagé dans le CA, et j'aimerais aussi remercier un petit peu, parce que je voyais des noms des membres du conseil d'administration là, d'une quinzaine d'années, et des membres qui sont là, parmi nous encore aujourd'hui, qui se sont retirés du CA pour prendre d'autres engagements, mais merci parce que c'est un service qui est caché, qui est parfois ingrat parce que on n'est pas là sur l'estrade, hein, personne ne nous voit à faire, et pourtant Dieu nous cherche pour que nous, dans notre responsabilité, on puisse prendre la bonne décision. Et parfois c'est pas évident, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas tous d'accord. Et waouh, et Dieu nous demande d'être intègre et aussi d'être fidèle dans les choses qu'il nous confie. Et la fidélité de Dieu envers nous et de nous envers les autres, c'est quelque part un concept qui est le même et qui est vraiment source de bénédiction. Et je le vois dans ma vie, je le vois dans ma vie professionnelle, je le vois dans la vie d'église et je remercie Dieu pour ça. Et c'est pas moi, c'est pas parce que je fais ou parce que je suis même fidèle que Dieu est fidèle. Waouh! Mais parce que Dieu est fidèle avec moi, je veux être fidèle dans l'Église et continuer cet engagement. Et pourquoi je suis engagé dans le conseil d'administration? C'est parce que quelque part, je veux apporter ma contribution pour rendre visibles tous les services de l'Église et quelque part y contribuer et donner quelque part une décision de dire oui, ça, on veut le financer. L'équipe là qu'on est réunis ensemble, il y a un projet, ça se décline de telle ou telle manière, et bien on y croit et on y va et on finance. Et on fait pour que ça tienne la route. Donc, gloire à Dieu, quoi. Donc, c'est la fidélité de Dieu pour ma vie, concrètement. C'est ça que je retiens.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? J'ai demandé à un ancien en âge, mais qui aime l'Église depuis plusieurs années aussi maintenant, Jackie, tu peux venir, s'il te plaît. Prier pour le conseil d'Église, au nom de l'Église. Voilà, donc vous avez vu les visages, vous pourrez penser à eux dans la prière, ils sont les représentants de l'équipe pastorale, du conseil spirituel. Après quoi, on va reprendre cette déclaration. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je crois en Christ son Fils. Merci Jackie de prier pour le conseil d'église.
Seigneur, nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui s'occupent de cette église, Seigneur, pour toutes ces personnes qui dirigent aussi, qui ont cette force et ce courage, Seigneur, de nous diriger. Je te loue vraiment pour ce que tu fais, Seigneur, car tu es vraiment merveilleux. Et vers quel autre que toi irions-nous? Car vraiment en toi, nous avons tout pleinement, Seigneur. Que tout vraiment soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.
Allez, on célèbre le Seigneur ensemble pour finir ce temps de célébration. Oui, je crois en Dieu notre Père.
Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom.
Amen, on vous souhaite un bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.